Bonjour à tous, bonsoir plutôt, bon appétit pour ceux qui mangent. Merci d'être venus à notre deuxième conférence du cycle de conférences qu'on a créé cette année avec le Trajour de Faubert. L'idée a germé un petit peu de manière anarchique pendant l'automne. On s'est dit qu'on aimerait ça avoir des auteurs qui viennent nous parler de leur processus de création. Puis à chaque année, on va se donner un thème et on prévoit 4 rencontres. Alors, cette année, on n'a pas pu faire 4 rencontres parce que c'est vraiment les débuts. On n'avait pas de financement, on n'avait pas vraiment de soutien logistique pour la publicité, etc. Donc on a juste eu 2. Donc on a Erika ce soir, puis on a eu Gabriel Marcouchabot au mois de février ou janvier, je ne sais plus.
Fin janvier.
Voilà. Et pour l'année prochaine, on va essayer de vous programmer 4 rencontres au fil des mois avec des auteurs qui sont issus de genres littéraires différents. On va essayer d'aller chercher dans le théâtre, le roman, la poésie, etc. pour tourner un petit peu. Puis le thème de notre cycle, là, c'était écrire entre les lignes. Donc Gabriel, vous avez parlé d'investir l'espace de la page, donc comment on joue sur tout ce qui est forme, en fait, comment la forme du texte littéraire peut venir enrichir le contenu. Et puis donc, ce soir, on a le plaisir de recevoir Erika Soucy. Donc on a dû reprogrammer pour des problèmes de salle, on s'en excuse. Est-ce que je te laisse présenter
Oui, bah, juste un mot pour dire que en fond, les autres conférences aussi avant, celle de Gabriel Marcouchabot, mais aussi les 3 qu'il y a eu à Ottawa pendant la dernière saison, parce qu'on fait une revue multi-université, sont disponibles en balado-diffusion sur notre site internet, donc vous pouvez aller les trouver facilement. Donc je vous présente un peu Erika, mais vous la connaissez si vous êtes ici, de toute évidence. Elle a écrit 2 recueils de poésie. La pluie visuelle, super! Cochonner la terre quand la terre. Cochonner le plancher quand la terre est rouge. Et l'épiphanie dans le front. Elle a aussi écrit une pièce de théâtre, Domino, qui a été présentée au premier acte en 2011, si je ne me trompe pas.
Oui.
Puis elle vient tout juste de sortir Les Murailles, son premier roman, reportage, aux éditions VLB. Donc ça a été publié en février.
C'est cela.
Voilà, elle est aussi directrice artistique et cofondatrice du Festival de Poésie de OFF, Festival de Poésie de Trois-Rivières. Donc voilà, je lui cède la parole, je vais nous parler d'entendre les bruits de l'instinct dans l'écriture.
Ouais. Oh. D'ailleurs, ce titre, j'ai été un peu, influencée par le titre de Gabriel, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était comme un titre là, qui avait l'air de porter quelque chose. Fait que quand
investir
j'ai pensé,
l'espace de la page.
Oui, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, oh, voilà, tu sais, là, je vais y aller avec un verbe, puis finalement, après coup, j'ai vu c'était quoi, là, genre dans l'événement Facebook, j'ai vu le titre, puis. Je me suis dit qu'on pourrait juste faire une séance de Ouija. En tout cas, blague à part, tu sais, ça va être vraiment simple. Ça va être à mon image. Regarde, je vais vous le dire tout de suite, je suis pas une universitaire, mais pas du tout, j'ai pas fait l'université. La théorie, théoriser, je fais pas ça. C'est très instinctif ce que je vais faire en écriture, puis après coup, je vais pouvoir observer mon écriture, puis après ça, je vais être capable de comprendre un peu ce que j'ai fait.
Oh, c'est
malheureux.
Oh, la
Ouija!
La Ouija
qui va
arriver
à marcher! Bon,
problème de lumière.
Je vais
pas faire ça.
Il est en train de voir le bien.
Ah, d'accord.
Ouais.
Bon, on va faire ici des problèmes de lumière.
Donc, pour ce que je disais, excusez, ça me un peu.
Côté officiel.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, après coup, quand j'écris, je suis capable de comprendre un peu ce que j'ai fait, mais ça part beaucoup de moi. Puis en même temps, d'être ici, ça m'a permis de faire un travail en amont, puis d'observer un peu comment je fonctionne comme auteur. Parce que j'ai comme tout. C'est très, très nice comment je crée. Je vais y aller un peu avec mon parcours à moi. Je vais commencer par ça. Puis je trouve que ça en dit long aussi sur comment je suis arrivée à faire ce que je fais. Moi, je suis de formation, je suis comédienne. C'est ma fille. De formation, je suis comédienne. J'ai fait mon conservatoire ici à Québec, en jeu. Et puis, l'écriture, d'abord, c'est venu par la poésie chez moi. Puis, c'était une façon pour moi de sortir de ce cadre-là, parce que les études en théâtre, c'est très hermétique. Tu sais, t'es dans un groupe de 12 pendant 3 ans, t'as ta place dans ce groupe-là. Puis, c'est aussi un art où tout est calculé, t'sais, jusqu'à ta respiration sur scène, il faut que tu contrôles ta respiration. T'es encadré, mais de façon totalement extrême, au conservatoire, là, cela dit. Puis moi, je me suis rendu compte que j'étais pas nécessairement bien là-dedans. T'sais, je manquais parce que, tu sais, les professeurs au conserve disent alors, ta posture, tu respires mal, fais attention à ta diction, et puis, vas-y, trouve ta liberté. Fait que j'étais un peu pognée là-dedans. Puis, pour moi, la poésie, c'était une forme d'art parce que je crois, je suis convaincue que c'est. Moi, pour moi, c'est de l'art, là, c'est pas autre chose que c'est une forme d'art. C'était très, très libre. C'est-à-dire qu'avec les vers libres aujourd'hui, l'éclatement des formes, il est complet. Là, tu peux faire ce que tu veux avec la poésie. Fait que moi, c'était comme. Est-ce que c'est mon fils sur sa tablette?
Victor, baisse le volume. Ça me dérange, ça me dérange, Coco.
Quand même. donc, c'est ça. Fait que je me suis réfugiée là-dedans très vite. Je me suis mise à consommer de la poésie, à lire tellement. Puis, de fil en aiguille, je suis tombée à un moment donné au Salon du livre de Trois-Rivières sur un fanzine qui était fait par des étudiants de l'UQAM qui s'appelait Ectropion. Et le but avec Ectropion, c'était d'être trash. Donc, c'était de faire des textes trash. Puis, tu sais, on y reviendra là, parce que j'ai comme une opinion maintenant aujourd'hui sur ça, là, sur le trash. Je vais en parler plus tard. Mais, tu sais, ça m'offrait une espèce de t'es-tu game de le faire, tu sais. Puis, c'était une façon de me rebeller, de sortir de l'école qui était très hermétique. Fait que j'ai essayé, j'ai envoyé un texte, puis il a été publié, puis la gang a trippé là-dessus. Et de fil en aiguille, Catherine Cormier-Larose, qui est la fille qui s'occupe du festival Dans ta tête à Montréal, qui est aujourd'hui ma meilleure amie et la marraine de ma fille. Mais bon. Mais à la base, c'est elle qui a vu ce texte-là que j'avais publié dans Ectropion, qui est comme une pièce d'anthologie aujourd'hui, Ectropion, là, pour vrai, là, tu sais, c'est comme. C'est un peu. C'est vraiment underground, puis, tu sais, le milieu littéraire, le milieu poétique à Montréal, c'est un peu comme un gag, mais tu sais, ça. Il y a plein de poètes aujourd'hui qui sont publiés puis qui sont reconnus, qui ont commencé là-dedans. Fait que c'est fascinant. J'aurais dû en avoir publié dans la vie. Fait que Catherine est tombée là-dessus, puis très vite, elle a fait « Ah, OK, il y a quelque chose », elle est venue me voir, on s'est vu dans une soirée, puis elle a dit « J'aimerais ça que tu viennes lire dans une de mes soirées que j'organise. » On est à Montréal. Puis je suis allée sur scène, j'ai livré des textes, ça a fonctionné, le monde trippait. J'ai comme senti que ma place, elle était là, peut-être même plus que dans mon groupe en théâtre. Et après ça, ben il y a eu le salon, l'OFF Festival de Poésie de Trois-Rivières. Puis le OFF, là, c'est né de façon complètement, je dirais, quasiment absurde, là. J'avais un ami à l'époque qui avait le Charlot, tu dois t'en rappeler, Alex. Ouais. Puis il venait d'ouvrir ça, une gang d'étudiants de l'université ensemble, là, le Charlot à Trois-Rivières. Puis le festival s'en venait, le Festival international de poésie s'en venait dans 3 semaines. Puis on était, il y avait moi puis 2-3 autres gars puis d'autres amis, tu sais. Puis on dit « Hey, ça serait drôle de faire un off. » Puis là, ils ont fait « Ben oui, ça serait malade, on a la place pour, on le fait. » Puis là, ils font « Ah oh, ouais, mais on connaît pas de poète. » Puis là, moi, j'ai fait « Mais moi, oui, j'en connais. » Finalement, t'sais, écoute, la première édition, là, on a sacré un micro sur le stage, j'ai fait des téléphones, puis on a eu un line-up de 10 lecteurs. Puis c'était du monde qui publiait dans Ectropion, puis c'était des gens qui avaient une parole, la plupart n'étaient pas publiés, il y en avait quelques-uns, oui. Puis, tu sais, ça a levé, là, ça a tellement pogné en pain. Puis, j'ai juste mis un micro, j'ai annoncé les gens un peu entre. Puis, tu sais, on se levait, puis on disait de la poésie. Puis, il y a quelque chose dans cette. C'est ça, c'était vraiment la liberté. Puis, tout ça, tout le off, aujourd'hui, ça fait 10 ans, c'est notre 10e année. Mais ça, c'est. Là, genre, je suis pas une motive. J'ai dit pas. Non, mais tu sais, ça s'est fait de façon instinctive. Tu sais, je me suis dit, ah, ça, ben, et les gars autour de moi, hey, ça serait le fun de le faire, ok, on le fait, on s'est pas posé de questions. On aurait pu se planter, ça aurait pu être dégueulasse, puis ça aurait pas été grave.
Mais tu te souviens, il y a eu la controverse, la première édition avec Gaston Benoît?
Ouais. Ouais, ben, pour faire une parenthèse, quand on a fait la première édition, le directeur du Festival international est sorti dans les médias en nous traitant de parasites parce qu'on voulait vivre au crochet du Festival international, mais surtout, on voulait faire lire des non-poètes. Donc ça, c'était des gens qui n'avaient pas publié. Alors là, il s'est mis pied dans la bouche jusqu'aux genoux, tu sais. Puis, mais en même temps, ça nous a fait la plus belle queue au monde! C'est écœurant, là, il est sorti, tu sais, il donnait des entrevues à la radio, à TVA, puis tout le monde disait, mais femme, ta gueule, t'es en train de la caler, tu sais. Puis nous, ben, on a sauté là-dedans. Fait que le off, là, la première année, c'était ça, c'était cette soirée-là, c'était une soirée avec Lucien Francœur. Qu'on a appelé parce que ça nous prenait un poète punk. Fait qu'on a appelé Lucien Francœur, puis là, lui, il était fâché contre Bellemare, fait qu'il était bien content d'être là. Mais finalement, il était là, il est arrivé 3 heures en retard, il a été 1 heure sur le stage. Il a chialé contre les Arabes tout le long.
Oh my God!
En les traitant de stigmanisants, c'était malaisant. Après ça, avant de partir, il a récité le rap à Belé, il a bu un scotch, puis il est parti. Ça, c'était le Officer première année. Là, ça fait 10 ans.
Et ben, au bout de 10 ans, c'est quoi votre relation avec le Festival international?
Ben, on s'est fait poser à chaque année, cette question-là. C'est au bout fixe, je te dirais, parce que on se complète tellement bien. T'sais, moi, j'ai pas d'animosité. Au départ, le garçon avec qui j'étais quand on faisait ça, lui, il avait vraiment une animosité contre Gaston. Moi, maintenant, tu sais, on vit tellement bien en parallèle, puis on se complète, puis je pense que c'est le public qui a le dernier mot du compte. Puis le public, ben, il vogue d'un événement à l'autre, puis...
Il n'y a pas de compétition réelle.
Ben, on est tellement différents, tellement, là, que, tu sais, je pense qu'à la limite, là, là, ça va avoir l'air prétentieux, mais je le pense, je pense qu'on a rendu service au Festival international en naissant, parce qu'on a apporté un public plus jeune. Toute la nouvelle génération de poètes qui sont programmés au Festival international sont passés par le off avant. Tous ceux dans les dernières années qui ont gagné le Nébillard, le prix du jeune poète du Festival international, étaient au off avant. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a un message, puis fait que tu sais, si Gaston arrivait, puis ben, je pense que si ça arrive, c'est parce qu'il sera plus en poste, là. Mais si le prochain directeur nous approche puis dit « Voulez-vous être dans notre programmation? » Ça se peut qu'on dise oui, mais il va falloir qu'on puisse continuer à faire ce qu'on
veut. J'avais une question pour toi.
Ouais.
Moi, je me souviens que dans mes premières éditions du Festival Off de poésie, les poètes officiels du Festival de poésie n'avaient pas le droit d'aller à vos activités. Tu sais, quand ils signaient leur contrat pour venir au festival, on leur disait « Si vous allez au Festival de poésie, genre, on vous coupe tout. Ouais, si vous allez au off. » C'est-tu encore le cas aujourd'hui?
Non. Ouais. Mais je sais que Gaston s'est chicané avec beaucoup de monde, justement, à cause de ça. Puis tu sais, il venait pareil, là, à un moment donné, c'est complètement niaiseux. Jean-Paul Daou, à chaque soir, il était dans le puis là, il faisait comme si de rien n'était. Puis moi, j'adore Jean-Paul Daou. J'ai découvert la poésie, l'oralité, j'ai découvert avec lui.
Ouais.
Fait que je suis complètement fan, puis il sait. Fait qu'à chaque année, là, quand il est là, je vais le voir. Je dis, Monsieur Daou, tu sais, je suis la seule dans le milieu littéraire qui vous voit encore. Je dis, voulez-vous venir lire? Puis là, il est comme, ah ouais, bon, j'ai une coupe de nouvelles lèvres. Il se laisse comme prier, mais il est tout en prêt avec ses textes. En tout cas, bref. Donc, c'est un gros détour, mais tout ça pour dire que ça part de l'instant. T'sais. Puis, mon rapport à l'écriture orale, ben ça, c'est, tu sais, pour en arriver là, j'ai tout un autre parcours aussi que je vais vous raconter. Jusqu'à présent, ça va?
Oui.
OK, il n'y a rien de théorique, mais je pense qu'on va avoir un petit peu. Quand j'ai commencé à écrire, donc c'était avec surtout Ectropion, puis là-dedans, c'était très trash, c'était très Montréal. T'sais, moi, j'étais une fille de la région, puis là, tout d'un coup, je découvrais la ville. Fait que, puis j'avais 18-19 ans, fait que c'est quoi? C'est les premières relations amoureuses. Hein? C'est toi qui as l'air d'un vieux cochon.
Précise que c'est enregistré.
Fait que c'est ça. Au départ, départ, c'était quoi? C'était, c'est ça, Montréal, les premières amours, les dates, là, tu sais, les affaires trash, là. Puis je trouvais ça bien, bien cool. Fait que, tu sais, pour parler de ça, c'est sûr que tu n'écriras pas en français normatif. Tu sais, il y avait une espèce de... quelque chose de très brut, très langue, très cru. Fait que j'ai essayé ça, puis je me collais un peu à tout le monde qui était dans cet univers-là, puis j'essayais de trouver ma place là-dedans. Puis ça marchait bien, dans le sens où, tu sais, c'était comme un peu inné chez moi, la capacité de créer des images, puis l'art du punchline. Tu sais, j'ai toujours eu le punchline bien, bien fort dans mes poèmes. Puis, c'est ça. Puis j'avais comme... c'est comme si j'avais besoin de me prouver quelque chose. Puis j'ai écrit là-dedans, mais très vite, à un moment donné, j'ai pris confiance. Puis là, ce besoin de me prouver là a sacré le camp. Puis là, je me suis mis à vraiment juste essayer des trucs. Puis très vite, j'ai trouvé ma voie, c'est-à-dire, bon, d'où je viens, tu sais, c'est quoi qui me rend unique, moi. Je viens de la Côte-Nord, c'est sûr que j'ai mes souvenirs à moi. Puis à cette époque-là, t'sais, là, c'est très à la mode, le Nord, là, je dirais, puis la nordicité, ça l'était pas, puis je veux pas, j'ai vraiment pas la prétention de dire que j'étais la première ou une des premières à faire ça, vraiment pas, puis je pense pas que c'est ça, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme une roue qui tourne, tu sais, il y a eu la ville, c'était ben, ça marchait, puis à un moment donné, on a comme besoin d'aller ailleurs, tu sais, puis je pense que c'est tout un mouvement complet qui a fait ce mouvement-là. Fait que c'est ça, c'est arrivé, puis j'ai écrit comme ça, de façon un peu graduelle, cochonner le plancher quand l'appareil rouge. Puis c'est ça. Puis c'est drôle parce que la structure, après ça, tu sais, comment j'ai construit le recueil, c'est les situations que j'avais vécues, tu sais, lors de... Chaque poème était rattaché à une situation que j'avais vécue. Puis, ben, la chronologie du recueil, c'est ben, qu'est-ce qui est arrivé en premier, puis dans l'ordre des situations. Tu sais, fait que ça, c'est devenu, c'était très très organique. Puis c'était ça pour moi, c'est ça pour moi l'instinct, c'est une façon de ça part de moi. Puis je me pose pas de questions. Puis y a surtout pas de censure. Ça crée d'autres. Pas de problème, mais d'autres confrontations. En poésie, c'est comme si cette liberté-là, on l'acceptait, mais en roman, elle est tellement pas... On est tellement pas rendu là. Je me fais tellement poser la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, avec les murailles. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le monde, de qui tu parles dans ton livre? Puis là, tu fais, mais attends, c'est des personnages, là. C'est, oui, ça part de des vraies personnes, mais il y a tout un travail littéraire qui est là. Puis, c'est ça. Mais bon, ça, c'est... En roman, on est rendu ailleurs. Ah, on n'est peut-être pas encore rendu là dans le sens où on a besoin de se justifier en fait d'autofiction, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprivoise là, au fil des entrevues qu'on a posées, mais ça va. Mais ce que je voulais dire, surtout avec l'oralité, c'est que faut qu'elle soit justifiable. T'sais, tu peux pas juste, en tout cas à mon sens, faut qu'elle soit non négociable. Pour moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue littéraire quand t'écris avec l'oralité, mais que tu pourrais pas l'écrire autrement. T'sais, la poésie, ben, ça parle d'un village de la Côte-Nord, ça parle de gars de chantier. Chris, me semble que toutes mes références n'ont pas le choix d'être ancrées dans une langue de ce territoire-là. Je saurais pas... De toute façon, c'est mon vocabulaire. J'ai, à la limite, là, j'ai pas d'outils pour écrire autrement. Oui, je serais capable d'écrire en normatif, là, mais ça serait... Pour moi, il n'y aurait pas d'envolée. Je n'ai pas le flow pour ça. Fait que ça, c'est non négociable. Je trouve que c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça porte le sujet. Quand t'as un personnage, je pense entre autres à Fabien Coutier, je te regarde parce que je sais que t'es beaucoup là-dedans, mais le chum à Chabot, là, le chum à Chabot,
ça peut pas exister en normatif.
Ben, c'est ça. Fait que c'est de là que ça devient intéressant d'un point de vue littéraire, c'est que c'est non négociable. Sinon, tu sais, le lecteur, il est pas cave, là. S'il y en a trop, il va décrocher. Parce que si ça a pas l'air organique, si c'est pas senti, si c'est des effets de style, ben, ça se sent rapidement. Puis c'est la même affaire avec le trash. C'est ça que je voulais dire tantôt. Parce que, tu sais, le trash, à un moment donné, c'était bien cool. Là, le trash, tu sais, c'est rendu quétaine. Tu sais, c'est la première affaire qu'on dit « Ah, ça, c'est trash. Hey, Chris, si tu veux m'insulter, là, dis que trash, Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'à partir du moment où c'est des émotions un peu plus crues, ou que t'as des personnages qui ont pas la langue dans leur poche, ou, tu sais, là, on tombe dans le trash. Puis c'est comme, c'est un espèce de fourre-tout, puis je trouve que ça fait faiseux. Puis c'est quétaine. Puis du vrai trash, là, ben, à part, mettons, Edward Bond, qui encore là, des fois, est vraiment quétaine. Il s'est enregistré, mais il sait que je l'aime. Non, mais, tu sais, il y en a pas au Québec, là. J'ai arrêté ça, là. Voilà.
C'est ça, c'est dit.
Mais est-ce que ça devient une certaine facilité aussi là, de faire du trash? Ok, un couple dit des trash et là tu dis que tu fais du trash et tu vas tout.
C'est ça, c'est un désir de choquer, c'est un désir d'attirer l'attention. Je trouve ça juvénile. À un moment donné, si c'est sincère, si t'as une démarche sincère et que ça part vraiment de toi, si c'est trash, il n'y a personne qui va te l'ornoter, tu sais, ça va se sentir. Fait que je pense que c'est une espèce de... Faut vraiment écrire pour soi. Moi, ça a été ça qui m'a comme ramené à ce que j'ai fait, a pris une certaine... À un moment donné, ma démarche est née. C'est parce que qu'est-ce qui me touche, moi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Puis comment je vais le dire? Puis c'est sûr que ça va être unique. Puis c'est ça. C'est avec ça que je suis partie, puis ça a bien marché. Est-ce que c'est clair? Oui.
Ouais, j'ai une question parce qu'on a parlé de toi tantôt dans notre séminaire.
Ah, ah bien, j'espère!
Ouais. Avec Sophie Les Tourneaux, puis dans le fond, nous autres, on a un séminaire de journalisme littéraire.
Oui.
Et on parle du reportage littéraire. Puis ce que Sophie, elle disait, c'est que clairement, ton livre, c'est du reportage littéraire.
Oui.
Mais c'est quand même identifié comme un roman.
Ouais.
Puis là, je sais qu'elle avait parlé à ton éditrice, et ton éditrice, elle avait dit, ben, tu sais, il y a comme quelques petites choses qu'il faudrait pouvoir faire passer comme de la fiction, comme ton père, je pense, prendre la conque, je sais pas trop.
Annie, elle a dit ça? Ah mon Dieu!
En tout cas,
c'est horrible!
Je sais pas. Non, je dis peut-être mal. Non, ce qu'elle a dit, c'est. Ben, ce que Sophie a dit, que ton éditrice a dit,
ouais.
que moi je dis.
C'est que elle
a demandé pourquoi vous avez mis roman sur la couverture, pas reportage, tu sais, parce que c'est un reportage. Puis ton éditrice avait dit, ben c'est parce que c'est un peu pour protéger Erika. Parce que tu sais, des fois, elle se fait toujours demander si ça c'est vrai, si c'est vraiment vrai à son père, et tout ça, parce que son père prend de la coke, et tout. Fait qu'au moins, en mettant le roman, ben ça fait fiction, puis tu sais, ça protège un peu sa vie privée.
Ah,
oh,
ouais,
littéraire.
Mais ça, c'est ce que ton éditrice a dit à Sophie qui nous a dit, puis que je te dis.
Ok. Ben pour vrai, peut-être qu'Annie, c'est ça qu'elle s'est dit, mais pour moi, c'était tellement un roman, tu sais.
Mm. Ouais.
Pourquoi?
Ouais.
Mais parce que c'est pas un... Dans le sens où il y a rien qui est arrivé de même pour de vrai.
Ok,
là,
c'est ça.
Ah,
tout est inventé.
Non, tout repose sur quelque chose dont j'ai été témoin, mais c'est pas nécessairement arrivé à moi. C'est des choses que j'ai vues, c'est des choses qu'on m'a racontées. Oui, je suis allée voir mon père là-bas, mais la structure narrative de ça, c'est... Dans le déroulement des événements pendant mon voyage, c'est pas ça. Sinon, ça serait pas intéressant. T'sais, je rapporterais des faits. Moi, il y avait besoin que tout ça soit apporté par une expérience émotionnelle. T'sais, qui, sur le terrain, ben, reste que je faisais du 9 à 5 avec des gars de chantier. T'sais, à un moment donné, t'as fait le tour de la question. Là, comme ça fait 3 heures, t'es dans le pick-up avec, t'as fait 2-3 jours de cul, puis il t'a expliqué c'était quoi qu'il y avait autour. Ben, à un moment donné, moi, il a fallu que j'aille puiser dans mes souvenirs d'enfance, dans... en même temps, c'est tous des personnages plus grands que nature, ces hommes et ces femmes-là. Mais, tu sais, par rapport à ma famille, il y a plein d'histoires sur mon grand-père qu'on m'avait raconté, que j'ai trafiqué, que j'ai mis là-dedans. Okay. Mais ce que je trouvais important, puis que je voulais pas dénaturer, c'était d'expliquer c'est quoi la romaine. C'est quoi le quotidien de ces gars-là et ces femmes-là? Parce que je dis beaucoup gars parce que c'est surtout des gars, mais il y a aussi des femmes, ça je trouve ça vraiment important de le dire, là, parce qu'ils ont une expérience aussi qui est pas facile puis qui est très propre à elles. J'ai essayé de l'esquisser un peu dans les murailles, mais j'ai pas eu beaucoup accès aux témoignages de femmes. J'en ai rencontré quelques-unes là-bas, j'en ai interviewé d'autres par la suite. Mais bon, au pire, je reviendrai sur ce sujet-là. Mais c'est ça, pour moi, c'était bien important qu'un gars de la Romaine lise ça et fasse « Ah oh, ouais, c'est fait de même sur le chantier, oh, c'est vrai, il passe ça. » Fait que, c'est vrai que, mettons, la relation employé-hydro, entrepreneur-hydro, c'est ça. C'est vrai que le monde du syndicat, c'est ça. Fait que l'aspect reportage, c'était pour pas me faire dire, te parler au travers de ton chapeau, ou encore un artiste qui parle de nous autres, puis qui passe un commentaire. Mm-hmm. Fait que ça, c'était bien, bien important pour moi. Mais, tu sais, dans le fond, ce qui tient la structure du la structure narrative, elle repose sur la relation, la dynamique père-fille. C'est drôle parce que dans mes recueils de poésie, la structure narrative, elle est basée sur les situations vécues, alors que dans le muraille, c'est vraiment sur l'émotion, je dirais. Tu sais, la dynamique père-fille, c'est « Ah, on est content de se retrouver, il y a plein d'espoir, ah, il y a une coche mal taillée, ça chie, ouais, bon, ben, on va faire avec, ça a toujours été ça. » Tu sais, fait que si je pouvais résumer là, comment ça se passe, là, l'évolution de mon personnage, la narratrice d'un muraille, c'est ça.
Même pour la poésie, parce que tu sais, la poésie, elle vient comme ça. Est-ce que tu la retravailles quand même?
C'est une bonne question. La réécriture, elle, en poésie, en roman, c'est autre chose, mais en poésie, c'est beaucoup sur le rythme après que je vais retravailler. Je vais les lire à voix haute, mes poèmes. Puis c'est drôle parce que là, Mathieu Arsenault, il dit que j'ai toujours des alexandrins. Je m'en rends pas compte. Mais ça, c'est l'héritage théâtral, nécessairement, parce qu'on a toujours travaillé ça comme ça. Bon, les vers, c'est des alexandrins. Fait que je l'ai comme enregistré dans ma tête sans plus ou moins m'en rendre compte. Fait que je vais lire un poème, puis je vais... Excusez-moi, je rote devant vous autres.
C'est vrai, c'est
instinctif. Ça vient de mon fond. Puis, tu sais... C'est ça, c'est que ça sonne-tu bien, ça sonne-tu pas bien, puis je vais choisir tel mot à la place de tel autre mot parce qu'il y a tant de nombre de pieds, puis je trouve que ça sonne mieux. J'entends vraiment la rythmique qui est très carrée. Mon chum il dit que j'écris en 4/4. Moi, je suis pas musicienne, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très rythmé, puis tu sais, on est capable de mettre un beat heavy metal par-dessus. Là. C'est ça qu'il dit.
Ah, c'est ça que tu dis?
Fait que... donc, je suis beaucoup dans ce rythme-là. Oui.
Mais juste, ces formes-là classiques sont pas apparues du pont. Je pense qu'ils étaient fondés à la base sur le souffle, sur ouais. Ce que les jeunes regardent donner dans la langue. Il y a une pause dans un alexandrin parce que maintenant, il faut que tu se gardes et mettre les mots, là, pour se garder enfilés. Donc, peut-être que ça vient pas nécessairement non plus juste des alexandrins, mais juste aussi du fait que quand tu respires, maintenant aussi, ça prend des césures et des pauses. Parce que tu sois capable de poser tes mots quelque part.
Fait que ce sera encore plus instinctif que
le mais les formes classiques viennent de là quand même, là, un peu du souffle et de comment on récitait les mots. Parce que maintenant, on ne peut pas faire des phrases de 48 pieds de long sans arrêter. Il faut faire des pauses quelque part.
Oui, tout à fait.
Je le vois comme ça.
Ouais,
c'est peut-être pas juste
l'aspect
classique du théâtre, c'est peut-être juste comme le fait
ouais.
De respirer aussi.
Tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. Puis, je m'en allais avec ça. Ouais, quand j'ai retravaillé les murailles, tu sais, des fois, je le fais, puis je peux pas te dire pourquoi je vais écrire ici et non ici, alors que dans la page d'avant, j'ai écrit ici. C'est comment je l'entends, puis ça, comme je disais à Annie, mon auditrice, t'sais, des fois, elle mettait, t'sais, j'écrivais « pi » ou « et », puis là, elle corrigeait, t'sais, puis j'étais comme « non, non, là, c'est un « pi » qui va là, ou là, c'est un « et ». Demande-moi pas pourquoi, je vais pas te justifier, parce que c'est de même que je l'entends. Puis en même temps, aujourd'hui, c'est pas égal, mais à date, il y a personne qui me dit « l'oralité est pas égale dans le livre », t'sais, parce que c'est senti, parce que c'est vrai, puis parce que c'est une vraie langue qui existe. Puis dans la vie, tu vas dire et puis ça dit. C'est ça. Fait que c'est de se faire confiance. Puis c'est beaucoup de lire à voix haute là, dans la réécriture, en tout cas en poésie, c'est ça. Puis des fois, je me surprends, je suis là, je suis contente. Fait qu'il y a beaucoup de ça. La réécriture du roman, c'est le réflexe d'écriture n'est pas le même d'abord. En poésie, je vais peut-être écrire juste deux vers, mais quand j'ai l'impression de tenir de quoi de bon, puis de qui tu sais que ça marche, je finis sous le même. C'est bien, bien épidermique, là, même. Là. Fait que je suis très investie là-dedans. Je pense que c'est la force aussi de mon écriture, c'est que je il n'y a rien de cérébral, tout est investi. Mais dans l'écriture de roman, tu ne peux pas nécessairement faire ça. Là. En fait, il y a des passages où c'est ça, là, j'ai trouvé à la fin de tel chapitre la punchline de feu, puis là, je capotais. Il y avait des moments grisants. Dans le premier jet, il y avait ça, mais dans la réécriture, il faut que tu... Faut que tu t'assures que là, ok, bon ben, c'était beaucoup. Tu sais, Annie, là, mon éditrice, elle a fait un travail génial parce qu'elle a pointé les poches d'air que moi j'appelle, c'est-à-dire où il nous manque un élément dans la lecture pour glisser. T'sais, c'est comme, c'est ça. Il y a comme une poche d'air là. Pis souvent, c'était qu'est-ce que pense la narratrice. Mm-hmm. Fait que là. Là, il y a un travail d'imagination qui a été fait, puis alors que je travaille très peu avec ça, avec l'imagination. Je suis quelqu'un qui va faire de la recherche, je suis quelqu'un qui va y aller avec ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu. Mais là, il y a toute la scène, là j'ai un scoop, mais la scène avec le frère. T'sais, mon frère n'était pas sur le chantier quand je suis allée. Fait que c'est toutes des affaires qu'il a fallu que j'imagine. T'sais. Fait que dans la réécriture, il y a eu ça. Il y a eu... c'est ça, s'assurer que ça coulait bien. Puis l'espèce de réflexe de mettre le mécanisme en marche aussi. Là, tu te relis, puis là, tu embarques dedans. Alors qu'en poésie, je me laisse la liberté d'écrire quand je suis inspirée. Mais en roman, visiblement, ça m'a pris 4 ans à écrire, là, mais...
4 ans,
oui. Oui, oui. Ben, tu sais, du voyage jusqu'à la publication, l'avoir dans les mains, là, ça a pris 4 ans.
Est-ce que tu en as fait un recueil de poèmes?
Avant. Puis après, ben, j'ai fait des groupes de consultation avec des travailleurs du Flying Flyer. Fait que je les rencontrais, puis je recueillais leurs témoignages, je leur lisais aussi mon manuscrit où j'étais rendue. Puis ça, c'est génial parce que ça faisait un pont, tu sais, la littérature à des hommes qui pas nécessairement en guéraient, là. Fait que ça, c'était bien, bien riche, j'ai adoré ça. Puis ils me disaient, « Ah, la petite, là, ça, c'est bon, ça marche. » Genre, telle affaire, on comprend pas. Ou non, je pense que t'as mal interprété tel outil, ça sert pas à ça. Fait que, là, tu sais, il y avait ça de pratique. C'est sûr, là, je pouvais pas écrire de quoi qui parle de construction, puis, tu sais, dire le mauvais mot pour expliquer c'est quoi une nacelle. La réponse, ça n'a pas marché. Fait qu'il y avait ça. C'est pas mal. Écoute, mon flow, c'était pas mal ça, mais j'avais pris des petites notes. Si j'oubliais des affaires, de quoi je pourrais parler. Avez-vous des questions?
Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce monde de la construction en particulier?
Mon père a fait ça toute sa vie. Mm-hmm. Mon frère fait ça. Mon chum a travaillé comme forestier. Mes oncles, mes cousins. Puis aujourd'hui, j'ai des tantes qui partent sur les chantiers puis qui vont faire la cuisine.
Donc, tu voulais comprendre leur monde?
Ben, tu sais, ça fait partie de moi. Puis j'ai vécu toute ma vie l'absence. Mon père faisait le fly in, fly out. Puis à la base, c'était du 80 jours dans le Nord, il revenait 20 jours. Fait que ça crée une dynamique familiale qui est très, très particulière. Là. Fait que c'est ça. C'était une façon aussi pour moi d'avoir accès, tu sais, à. C'est un hommage, une façon d'offrir un hommage aussi à mon père parce que. Puis ces gars-là, ils ont tellement été généreux quand je suis allée, ils sont tellement ouverts à moi, c'était fascinant de voir ça aller parce que je suis arrivée sur le chantier, puis là, je voulais pas trop qu'on sache que j'écrivais parce que je me suis dit, bon, ben, ils vont se braquer, ils voudront pas donner d'informations. Puis c'est le contraire parce que c'est comme un village, là, tu sais. Pour vrai, c'est une gang de pis, là, les gars de chantier ensemble. On parle qu'un milieu de femmes, ça placote, là, mais c'est horrible. Là. C'est pire, je dirais. C'est pire. Ils sont vraiment bébés là à l'an. C'est pas une gang de bébés là à l'an. Fait que, tu sais, tout le monde sait tout, puis c'est vraiment pas long, puis les cancans partent. Puis, fait que, Mais je me rappelle, j'étais assis à un moment donné à la cafétéria, puis les gars, c'est comme s'ils s'étaient dit, comme on se vide le cœur parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous écouter. Fait qu'ils me parlaient de leur enfant, comment ils s'ennuyaient, ou comment ils savaient pas trop où se mettre les pieds, tu sais. Puis j'en ai fait un poème dans les Épiphanies dans le front, et tu sais, il y a un gars qui me dit. Ma fille, elle me reconnaît pas tout le temps quand je reviens, mais elle a jamais peur de mourir, par exemple. c'est terrible, là.
Ouais. Et dans le roman aussi, je pense.
Oui, dans le roman, oui. Mais ça m'a tellement marqué, ouais, ça. C'est une fierté, là. C'est une fierté pour ce gars-là. Puis tous les gars autour de la table ont fait, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis mon père, à ce moment-là, a aussi acquiescé. Mais c'était pas par rapport à moi, c'était par rapport à sa deuxième fille qui a eu. J'ai une petite soeur de 5 ans. Fait que c'était par rapport à elle. Fait que tu sais, tout ça, tu sais, la poésie, le littéraire m'arrivait, là, par deux vagues. Fait que tu sais.
Fait que dans le fond, tu as fait ce voyage-là en te disant que tu allais écrire.
Ben, je l'espérais. Okay. Tu sais, c'est sûr que je suis arrivée là en me disant, hey, c'est tellement riche comme univers. Je suis tellement chanceuse d'avoir accès à ça. C'est en plein scandale de la loi 33, là, fait que les journalistes auraient. Il y en a beaucoup qui auraient voulu être à ma place. Fait que oui, je savais que j'allais écrire de la poésie parce que c'est ce qui me venait en premier. Puis je pense que j'avais le besoin de passer par là d'abord, de toute façon. Puis, mais après, t'sais, très vite, au lancement de l'Épiphanie dans le front, j'ai lu des extraits de mon journal de bord. Fait que c'était clair que je voulais construire de quoi par rapport à ça. Ça a été long, ça a été dur pour moi de passer de la forme courte à la forme longue. Puis c'est un très court roman écrit en court chapitre. Puis à un moment donné, je l'ai comme accepté, ça. T'sais, moi, je suis pas quelqu'un qui s'étend. On a-tu compris, on a-tu pas compris, puis on passe à autre chose. T'sais. Fait que c'est comme ça que je l'ai pensé. Puis c'est pour ça qu'Annie, elle a fait un travail de « Non, non, ici, tu nous emmerdes pas. T'sais, tu peux aller plus loin, tu peux nous en donner plus, puis on n'aura pas l'impression de perdre notre temps. » C'est ça. Puis le rythme, sans doute, qui se transpose aussi dans le roman d'une certaine manière sans que je m'en rende compte. Oui.
Et concrètement, comment ça se passait au niveau de enfin, très concrète écriture? Est-ce que tu avais un journal, tu prenais des notes au fur et à mesure? Est-ce que c'est le soir que tu consignais? Est-ce que tu avais vu la journée, que tu avais récolté un peu?
Pendant mon voyage, j'écrivais un petit peu, mais pas tant que ça. T'sais, c'était quand, mettons, je me suis ramassée dans la roulotte d'entrepreneurs, tous les gars étaient partis travailler, puis il y avait juste le comptable dans le bureau. Ben là, tu sais, j'ai pris le temps de remonter ce que j'avais vu la veille ou l'avant-midi avant. C'est drôle, hein, parce que je l'ai rouvert avant-hier, ce carnet-là. Je l'avais pas ouvert depuis que j'ai fini mon premier jet, finalement. Mm-hmm. Le fait que ça fait peut-être 2 ans. Puis j'ai lu, puis c'est la première phrase du roman, c'est la même que dans mon carnet-là.
Ah, ouais.
Très vite, le littéraire est embarqué quand, là-bas sur le chantier, quand je prenais mes notes, tu sais, j'avais... Là, tu sais, c'est drôle parce qu'en entrevue, j'ai dit, ah, c'était très fragment, mon carnet de notes, c'était rien de littéraire, puis là, tu sais, c'est tout le contraire, finalement, je m'en rappelais pas. Fait que, tu sais, ça m'habite, c'est sûr que c'est très... C'est drôle parce que dans le début de mon premier, tu sais, c'est comme si j'avais eu 3 premiers jets des miroirs, tu sais, j'ai scrappé des affaires parce que j'avais beaucoup de réflexes de jeune écrivaine. C'est-à-dire que je décrivais les choses au lieu de les vivre, au lieu de les faire vivre à ma narratrice. C'est comme un gros défaut de débutante, mais il a fallu que je l'expérimente pour me guérir de ça. Mais dans le journal de bord, là, c'est ça. C'est que je fais comme des résumés des situations que j'ai été témoin. Puis, c'est ça. Ouais.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à la lecture, c'est à quel point. Tout en récupérant les codes, mettons, du Nord, des chantiers et tout, tu te contentes pas juste de les reprendre comme on les voit, puis tu sais, comme ils peuvent être très stéréotypés aussi d'un point de vue extérieur, mais d'aller vraiment au-delà des stéréotypes, puis de le briser, tu sais, puis de recréer comme une certaine ambiguïté. Puis l'exemple qui me vient spontanément en tête, comme ça, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand toi ou ta narratrice, t'es avec le personnage qui est comme vraiment grande gueule, vantard, etc. Tu sais, que c'est le type. C'est le type, mettons, même du gars de chantier, si on veut.
Ouais.
Puis là, il te dit « Ah, t'es poète, c'est qui ton poète préféré? » Là, tu lui réponds. Puis là, pour un peu par bravant, tu sais, un peu pour le baver, on sent que tu lui dis « Puis toi, il dit « Ben moi, c'est Jacques Brault. » Tu sais, là, il écoute, tu sais, c'est comme tellement drôle, tu sais, tu pourrais jamais t'attendre à cette réponse-là, sérieusement. Puis là, il se met à te raconter là, sa soirée de Noël chez Jacques Bourreau. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est cet exemple-là qui me vient en tête parce que c'est. Peut-être. On fait un projet de recherche sur Jacques Bourreau en ce moment, fait que j'ai trouvé ça comme là. Mais ce sentiment-là, je l'avais plusieurs reprises, tu sais, dans le roman, puis je trouvais ça vraiment fun.
Montrer l'envers de la médaille, c'est vraiment cool. Puis ça, c'est un
ouais, mais tu sais, tu reprends le code, puis tu le détruis en même temps que tu le donnes, tu sais.
Ah ben,
ouais, c'est le fun.
Ben, c'est le fun parce que c'était vraiment, c'est un désir conscient que j'avais de montrer toujours deux côtés à une médaille. Chaque personnage qui est présenté là-dedans, il n'y a personne qui est un trou de cul à 100%. Il y a toujours un côté tendre. Puis Chris, c'est bien plus intéressant de même. Là. De toute façon, ça n'existe pas du monde qui est juste méchant ou juste bon. Ça n'existe pas. Fait que j'avais, puis c'est très à la limite, très installé dans le livre aussi. Tout est conscient par rapport à ça. Puis c'est aussi une façon de... Tu sais, on a tellement parlé en mal. Puis ça vient aussi d'une expérience. C'est parce que ça me touchait en quelque part. Là. C'est qu'on a tellement parlé en mal de ce chantier-là. Puis tu sais, avec Rambo puis tout ça. Puis tu sais, il y a tellement eu de toutes sortes de mauvaises presse qui étaient tout à fait justifiées. Puis tu sais, ça, je remets pas ça en doute. Mais... Moi, je le vivais, tu sais, moi, j'ai toujours été élevée où on m'a dit, ben non, Rambo, il défend nos intérêts, pis c'est vraiment un bon Jack, puis moi, ben les hommes que vous traitez de trou de cul, de pollueur, ben c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon cousin. Fait que, tu sais, je le sais qu'ils sont pas de même, tu sais, ils ont des affaires qui font qu'ils ont pas de si bon sens, pis genre, ça sacrerait une claque en arrière de la tête. Mais il y en a d'autres que tu fais, ben non, c'est des êtres humains, pis c'est juste parce que ils ont pas appris, pis c'est aussi une façon de dénoncer une espèce de pauvreté culturelle et intellectuelle. Tu sais. Oui, on parle beaucoup de chômage sur la Côte-Nord, mais Chris, c'est pas normal que les enfants n'aient pas accès à la culture. Puis que quand il y a une pièce de théâtre pour enfants qui va à Forestville, ben, il y a deux familles dans la salle. Tu sais, c'est parce qu'à l'école, on n'en parle pas, parce qu'on ne montre pas ça de façon intéressante. Tout ce qu'on a comme culture, c'est TVA, tu sais, c'est les revues à Potin. Fait qu'il y a une espèce de ça, puis t'as pas de tu sais, je veux dire, il y a pas de diversité culturelle, zéro, là. Fait qu'il y a du racisme incroyable, puis blanc envers blanc et autochtone, puis j'en parle aussi beaucoup là-dedans, là. Fait que c'est ça, tu sais, puis c'était aussi une façon de pas condamner ça, dans le sens où c'est, en quelque part, c'est pas de leur faute. Tu peux pas demander à un gars d'aimer les Indiens quand toute sa vie on lui a appris à les haïr. C'est une façon de aussi de passer un message, là, tu sais, ben en fait, je veux pas être moralisatrice, mais quand on m'ouvre la porte, tu sais, je le dis, puis je le dis ce que je pense, puis c'est ça. Voilà.
Tu ne poses jamais de jugement aussi à l'intérieur, tu sais.
Non.
Tu peux transcrire des propos très racistes, tu sais, sur les Amérindiens, mais toi, en tant que narratrice, tu ne l'interprètes pas, tu le laisses juste là, comme ça.
Ben ouais.
Et c'est bien.
Mais c'est comme ça que je le recevais aussi, puis que je le reçois encore, là. Tu fais quoi? Par rapport à ton oncle, tu sais, qui est rendu à 60 ans passés, puis qui te dit, mais les Indiens, c'est tous des petits crises de voleurs, ils sont tous pareils. Tu sais, qu'est-ce que tu dis à ça?
Tu vas pas changer cette personne-là.
Tu vas pas te mettre à haïr cette personne-là qui a pu lui parler. C'est ton oncle que tu vois tout le temps, tu sais. Fait que c'est un peu. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours reçu ça, puis évidemment, ça m'a formaté. Tu sais, moi, j'en ai des réflexes racistes, puis je suis vraiment pas fière de ça. Puis ça, c'est comme un début de déconstruction de cette pensée-là, tu sais. C'est une démarche littéraire, mais c'est aussi une démarche très, très personnelle, puis...
C'est sociale aussi.
Ben, oui, mais je voulais pas... Tu sais, j'ai peut-être de la misère avec le terme, parce que je trouve que c'est correct, mais je trouve que on peut dire... Je veux pas être moralisatrice, je veux pas
tantôt on parlait de l'art du temps, il y a eu la ville, il y a eu la nordicité, mais là je pense que c'est un peu aussi, je pense que ça nous touche tous.
Ouais, c'est ça, le désir de faire un pont. Moi c'est ça, c'est oui un pont avec les autochtones, entre les blancs et autochtones, mais aussi un pont avec ces gars-là,
tu montres les choses telles qu'elles sont.
Oui.
Ton travail, c'était pas forcément. Enfin, je veux dire, le travail de l'écrivain, on peut le questionner. Du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de juger les situations ou est-ce que c'est de les rendre?
Ben, moi, c'était de la.
Voilà, c'est.
je fais une grosse parenthèse. Mon chum travaille des fois sur des in and out, mais jamais des 80 jours. T'sais. Il travaille dans les mines.
Mais ça te fait plus les 80
jours. Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, il partait un mois. Là, présentement, c'est plus des 10 jours. Mais tu sais, ça. Bon, tu sais, il part des un mois, il revient deux semaines. Mais tu sais, je comprends un peu le feeling que ça donne, même si c'est jamais aussi long que ce qu'il faisait à l'époque. Puis tu sais, on a vécu à Val d'Or, puis tout ce qui se passe avec Lex Simon. Puis tu sais, à Val d'Or, le racisme, tu sais, l'affaire des femmes autochtones qui sont fait violer, la police, tout ce qui se passe là-bas. T'sais, j'ai vécu là, puis je sais ce que c'est le rapport interracial, un peu de ce qui se passe dans le milieu. Puis c'est vrai que tu changes pas les gens, puis c'est vrai que quand t'es voyageur comme ça, tu sais pas quoi leur dire. Parce que dans le fond, ces gens-là vivent là, avec ces gens-là depuis des années. Puis tu sais, ils ont vu des choses qui ont amené ces réflexes racistes-là, puis toi, t'es pas nécessairement vécu parce que t'arrives d'ailleurs. T'sais. Puis là, t'arrives là, puis tu les remarques plus parce que t'sais, t'as pas vécu là depuis que t'es petit. Là. Fait que tu peux pas arriver là avec ta moralisation, ta morale de la ville,
de son
racisme, ça marche pas de même. C'est sûr que c'est plus compliqué que ça, là. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement. Puis je sais pas si t'as lu celui de Biz, Mon Terrain.
Non, je l'ai
pas. Mais il est... moi, pour avoir vécu à Val d'Or, j'ai tellement reconnu la place. Là, c'est clair qu'il est allé faire un reportage ou qu'il a interrogé des gens de la place. Parce que quand il raconte qu'ils ont fait venir du Kentucky pour 200-300$, tu sais, je veux dire, quand tu rentres au Kentucky à Val d'Or, c'est juste des Indiens. T'sais. Fait que tu. C'est vraiment. C'est un cas de culture là, d'aller là et de voir ça. Puis en même temps. Ben c'est ça, t'sais, on est tous, quand tu dis on est tous racistes, on est tous racistes. Oui, tu sais, puis moi j'ai fait une recherche action sur l'homophobie, tu sais. Puis dans le fond, je me suis rendu compte que c'est dans le langage, tu sais, c'est inscrit dans le langage, les stéréotypes.
Ça rend même pas compte.
Non, non, c'est ça. Ma conclusion était super déprimante. Quand j'ai fini ma recherche, je me suis rendu compte que les mots sont porteurs de stéréotypes. Et t'as pas le choix. T'sais, pour les nier, t'es obligé de les utiliser. Puis quand tu les utilises, tu sais, comme tu te trouves à les nommer, puis à les renforcer, puis à les propager, tu sais, c'est comme, t'as pas le choix. Un exemple, là, c'était comme, tu sais, l'homophobie, ma recherche était sur l'homophobie, puis, tu sais, mon ami, c'est un homosexuel, mais il est pas efféminé. Tu sais, si tu dis ça, là, tu sais, tu viens de dire que les homosexuels, d'habitude, sont efféminés, puis tout le monde le sait. Puis tu t'en rends pas compte, là, quand tu le dis, tu nies le stéréotype, puis en même temps, tu le propages. Tu fais les deux en même temps.
Puis
c'est dans la langue. T'sais, dans le fond, si t'es capable de dire ça, c'est parce que c'est parce qu'un homosexuel vient avec l'idée d'efféminer par défaut dans la langue. C'est grave. Là, dans le fond, là, quand tu te rends compte de ça, c'est très déprimant. Puis t'as pas le choix, justement, d'essayer de nuancer comme tu peux en rendant tes personnages, je pense, le plus humain possible. Mais tout le monde est raciste dans ses propos, parce que la langue est porteuse de stéréotypes. C'est triste comme
ça. Mais rien que le mot race, si tu utilises le mot race, tu es déjà en train d'être conscient comme celle qui est raciste.
Ouais.
Oui,
je m'excuse de donner de la théorie
dans ta tête. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Puis même là-dedans, tu sais, à un moment donné, l'entrepreneur, il dit c'est pas drôle de travailler avec les Indiens, mais moi, je n'ai un bon.
Mais c'est ça, mais. Puis Fabien, il disait ça, maintenant, il parlait du mais dans une entrevue, puis j'ai pointé, je sais pas s'il a vu mon commentaire, mais tu sais, il dit qu'il y avait beaucoup le mot mais, là, puis tu sais, je trouvais que c'était tellement, mais pourquoi que le mot mais est important, mais c'est assez ça, là, tu viens nier tous les stéréotypes avec ça, parce que, tu sais, ta langue est porteuse de stéréotypes, puis t'as pas le choix d'utiliser le mot mais si tu veux les nier, tu sais, mais c'est pathétique parce que t'es propage en même temps, mais tu sais, ouais, c'est ça,
il faut construire d'autres mots, il faut construire aussi, c'est comme les mots nègres, tu sais, pendant des siècles, on a utilisé le mot nègre et tout, c'est d'autres mots.
Mais en même temps, tu sais, puis ça c'est drôle parce que ça pose la même question. Je peux pas dire autochtone là-dedans si je dis
non,
indienne.
Non, c'est ça. C'est ça.
C'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve qu'au contraire, je trouve qu'on a envie de notre langue, de tout son relief par peur de véhiculer des préjugés, des stéréotypes, mais on est aussi construit de préjugés, des stéréotypes et aussi de choses qui sont juste vraies.
Et c'est le fondement de la langue. T'as pas le choix d'avoir des stéréotypes dans la langue, sinon tu reconnaîtrais rien.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que par politiquement correct aussi, on vide tout le discours de. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient vu Marc-Olivier Moutier qu'on avait reçu en classe, qui avait mis les pieds dans le plat sur plein de choses, sur le féminisme. Mais en même temps. En même temps, il le disait lui-même, on peut plus exprimer aujourd'hui certaines idées. Il disait, comme exemple, je peux pas arriver à la radio et dire moi, j'aime pas les homosexuels, parce qu'il va se faire lyncher complètement. Et j'aimais bien son exemple parce que. C'est un peu, il vient titiller, tu sais, il fait l'avocat du diable, mais quelque part, c'est vrai qu'on dit qu'on est dans une société ouverte à tout le monde et tous, mais il y a certaines idées qui sont admises et d'autres non. Et je trouve que c'est intéressant que tu montres aussi le monde réel de ces hommes-là, ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils vivent réellement, ce qu'ils sont réellement, leur langue, tu sais, tout. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, ça veut dire que c'est, pour l'instant, c'est comme ça, c'est leur monde et c'est un peu pareil à Veldor, enfin, ce que tu as compris là. Mais la littérature doit nous donner accès aussi, je pense, à la vérité de la réalité, en fait.
Ouais. En même temps, je sais pas, comme écrivain, comme artiste, on peut aussi toujours se poser la question jusqu'à quel point on se lave les mains.
Ouais, ouais, bien sûr.
Il y a comme... Je pense qu'il y a peut-être un seuil, il n'y en a pas franchi, mais je sais pas c'est lequel. Mais t'es chacun a le sien, t'es chacun a sa réflexion qui est propre, t'es de dire...
Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut que tu t'armes aussi comme auteur, parce que, ben, c'est sûr que quand tu n'as pas d'entrevue, quand tu n'as pas de compte à rendre sur ce que tu as fait, c'est pas le cas, mais moi, après ça, c'est sûr que... Il fallait que je me suis préparée, là,
oui.
je l'ai pensé, mon discours, parce que tu le sais que tu dis des affaires qui peuvent te blesser, mais il faut que tu puisses, après ça, te défendre en quelque sorte, ou tu sais, justifier ce que tu as voulu faire. Mais quand c'est... En fait, je l'ai fait, mais d'un autre côté, c'était tellement... Je voulais tellement pas blesser personne, c'était tellement par amour, puis... Il n'y avait rien de méchant, que ça a quand même été facile. T'sais, j'ai pu dire, mettons, à, plus on est fou, plus on lit. Moi, dans la vie, je suis raciste. Puis il n'y a personne qui m'a. Ben, en fait, le monsieur français à côté de moi, pendant la pause, n'était pas content. Mais c'est en honte, ça n'a pas paru. Non, mais dans le sens où ça, ça n'a pas fait. J'ai pas eu de message après de ah, t'es dégueu ou t'as pas rapport. C'était le contraire. C'était plus hey, Christ a raison en quelque part. Ça dépend toujours comment tu l'as.
Je pense aussi que, pour penser sur ce qu'on fait, si tu reprends les stéréotypes, mettons, dominants, puis tu fais juste les relancer comme ça, sans aller au-delà, puis tu fais juste reproduire un petit peu ce que l'image déjà que la société a, mettons, des Amérindiens, des Conchartiers, des homosexuels, ben là, il y a un problème à la fois moral, mais esthétique, mais littéraire aussi.
Ouais, c'est ça.
Alors, de retransmettre la parole de quelqu'un, mais de le montrer en même temps cette parole-là dans un contexte, déconstruit un peu son stéréotype, mais c'est là que le travail, je pense, littéraire embarque.
Oui, il y a les discours que tu as, c'est tellement ce que tu dis, les discours que tu as par rapport à ce que tu as fait, ça va changer aussi. Si tu avais un discours complètement genre, ah ben moi je m'en fous, c'est comme ça, tu sais, ça serait différent, tu sais, une réflexion sur ce que tu as fait, pourquoi, tout ça, tout l'amour que tu as donné, ça, tout ce que tu as voulu montrer, si ça change tout, ça aurait pu être exactement le même livre, mais s'ils peuvent être dit, mais c'est comme ça, et moi, ils sont récents, ou t'es peu importe.
Oui, t'as raison, c'est comme le trash, c'est une raison, je pense, d'utiliser. Utiliser juste pour faire comme
un
trendy ou c'est cute, là, ça, ça
voilà,
marche pas. Mais c'est une raison, d'ailleurs, d'utiliser, je pense que là, oui, ça passe. Que ce soit justifiable.
Oui, puis c'est ça que c'est une démarche. Il faut que ce soit sincère aussi dans ton écriture, parce que le lecteur, quand tu prends le livre, il n'a pas nécessairement entendu l'entrevue que tu as faite pour te justifier.
Oui, c'est
ça,
c'est vrai.
Fait que je pense que là, la nuance prend tout. Devient vraiment importante à ce moment-là, c'est-à-dire où tu montes les deux pôles. C'est ça. Mais c'était une de mes peurs quand même avec ce livre-là que le monde me traite de raciste. T'sais, pis, je veux dire, qu'est-ce que j'aurais répondu, c'est oui, en quelque part oui, t'sais, mais c'est pas ça que je voulais dire, là. Mais je peux pas dire non. Mais c'était quand même une de mes peurs que ça soit pas... Parce que le deuxième degré, là, on met beaucoup ça dans le même paquet, hein. On excuse beaucoup de choses avec le deuxième degré, puis c'est un peu aberrant, là, dans notre société, t'sais. Parce que qu'est-ce qui fait que, mettons... Il y a des humoristes qui vont faire du deuxième degré, puis eux autres disent qu'ils font du deuxième degré, puis c'est complètement choquant, puis misogyne, puis dégueulasse. Puis tu vas en avoir un autre qui va le faire, je pense à Fabien, puis tu sais, ça va bien passer. Puis ça je pense que c'est peut-être justement une question de sincérité en quelque part.
Mais je pense que c'est une question par l'amour aussi, parce qu'ils respectent les gens dont ils parlent. Toi aussi, on sent quand même un respect. Mais moi, c'est pas par rapport. Tu sais, comme l'Indien, c'est l'autre. Mais t'as un respect pour les gens qui regardent l'autre. Je pense que c'est de là que ça passe. Moi, je l'associais pas nécessairement à toi, mais à leur réalité, à eux. Puis c'était fait dans le respect. Eux, elles allaient pas se sentir des écœurants. Les gars de la Romaine quand ils allaient lire. ils étaient compris dans leur toute la complexité de leur situation. Puis je pense que c'est ça la différence.
Oui, ben c'est un...
Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu.
Ben c'est porteur, en tout cas, ce que tu dis.
Puis aussi, tu présentes l'envers de la médaille, vraiment, tu sais, tu transmets la parole que les hommes de chantier ont sur les Amérindiens et les Amérindiennes.
Ouais.
Mais tu as aussi cet Amérindien-là, je pense, Éric, qui est comme le grand colosse, Éric Bastien, que tout le monde pense que c'est un tueur, etc. T'sais, on va tout un peu juger. Puis après, tu as quelqu'un qui te dit hey, moi, j'ai un gars, c'est vraiment le meilleur gars que j'ai jamais engagé de ma vie, il est parfait, il est propre, nanana. Puis tu apprends que c'est le même. T'sais. Mais que finalement, c'est ça, sur la même personne, le regard varie. Fait que tu as plusieurs points de vue, fait que ça fait en sorte que.
Ouais.
On pense pas nécessairement que c'est. Tu as un parti pris ou que tu poses un jugement parce que tu te donnes cette différence.
Mais tu vois, dans mes réflexes racistes, là, ça a été quand même ben, pas difficile parce que non, c'était pas difficile, j'étais pas déchirée d'écrire ça, mais j'ai eu un réflexe raciste de faire « Ah, je vais excuser un Indien ». C'est niaiseux, ouais. C'est terrible, là, mais c'est ancré en moi à ce point-là. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est quand, justement, l'entrevue qui est passée à enquête là, sur les femmes autochtones à Val-d'Or, à Lac-Simon, puis avec les policiers, tout ça, je l'ai regardée avec ma mère. Puis tu sais, tout ça se déroulait devant nos yeux, tu sais, puis c'était une bombe, c'était horrible. Puis ma mère, elle me dit « Ouais, mais... pas sûr que c'est tout vrai. Tu sais, si c'était une prostituée, elle a demandé de l'argent, puis le policier regarde, il s'est juste payé une pute. » J'étais comme, attends. Hein. Je veux dire, même si c'est elle qui avait proposé une pipe, là, Chris, c'est une police sur son compte de travail, c'est horrible, là, tu sais. Puis elle voulait pas dire qu'un Indien avait raison.
Mmh.
Tu sais, c'était ça lui faisait mal. Elle voulait pas accepter ça. C'était pas un blanc qui était sale. C'était l'Indien qui l'avait cherché, qui avait couru après. Puis c'est ça.
Mais ça me fascine quand même, tu sais, de la manière dont tu en parles. Je me dis, mais d'où ça vient, tu sais?
Ben, j'ai été élevée comme ça toute ma vie, là. Tu sais, on...
À l'école ou à la maison?
Ben oui, partout, là. Tu sais, moi, le rapport avec les Autochtones que j'avais, c'est mes tantes qui sont des familles d'accueil. Donc, tu sais, la joke cette année à Noël, c'était bon, Yolande débarque avec sa réserve. Parce qu'elle a 3 ou 4 enfants autochtones chez elle, qu'elle a en famille d'accueil. C'est une famille de la DPJ. Fait que moi, tout ce que je connaissais, d'abord, j'ai jamais mis pied à Berzémis, là. Puis c'est à 1 heure de chez nous, c'est la réserve à côté, puis je suis jamais allée là, je sais pas de quoi ça a l'air une réserve. J'ai aucune idée. J'ai grandi ça à côté. Mais, puis tu sais, fait que c'est ça, c'est des enfants mal élevés qui ont été battus, c'est des petites crises de voleurs, ils vont aller voler dans le cabanon du voisin. Mais tu sais, ça, il y a personne qui apprend à ces familles-là, familles d'accueil, que c'est peut-être aussi dans leur culture, que tu sais, tout appartient à tout le monde, tout appartient à la communauté. C'est quelque chose de culturel qui est ancré, mais ça, ils n'ont aucune notion de ça. Puis on leur garoche des enfants autochtones, c'est comme elle délaient à la place de leurs parents. T'sais. Fait que c'est un manque d'outils à un moment donné qui ont formaté ces gens-là, puis qui m'ont formaté aussi. T'sais. Puis le rapport que j'ai, ben c'est ça, c'est les gars sous, c'est soit t'sais, un Indien sous, tu sais pas qu'est-ce que ça peut faire, tiens-toi loin. T'sais, j'ai toute ma vie. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je me rappelle à un moment donné, il y a un regroupement de femmes, deux ou trois mères autochtones qui avaient fait une grosse, nous autres on dit du spot, là, mais mon chum il dit de la tourtière. Il a fait un gros spot, puis il l'avait donné à ma tante qui avait eu en famille d'accueil un jeune autochtone, tu sais, puis elle l'avait amené au chalet, puis il y a personne qui a mangé de la tourtière parce que c'était fait par des Indiennes, puis c'était le running gag, c'était comme... Puis elle en avait fait une à côté. Genre, hey, voulez-vous de mon cipote ou vous voulez du cipote d'Indienne? Puis là, c'était comme, non, on va juste manger le cipote que nous autres on a fait parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont dû cracher dedans. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont. C'était probablement quelque chose d'excellent, genre avec du. Tu sais, de l'orignal dedans à la limite, là. Puis ils n'ont jamais mangé, ils l'ont pris sous vidange. Fait que, tu sais, c'était. Tout c'est ça, fort, là, à un moment donné. Puis c'est ancré dans le quotidien. Puis c'est banal, là, c'est rendu banal. Fait que.
Et personne ne les remet plus en question parce que c'est tes parents qui t'ont enseigné ça.
Non, puis ils ne voulaient pas mal faire, tu sais. Eux, c'était une façon de me protéger, en quelque part. Ouais.
Mais Val-d'Or, tu sais, c'est tellement ça. Tu as des anglophones, tu as des francophones, puis eux autres, à la limite, ils se parlent. Tu sais, quand ils disent les deux solitudes au Canada, mais il y a 30% d'Autochtones dans la ville, puis eux autres, personne ne leur parle, tu sais. Tu sais, c'est vraiment une solitude encore bien pire. Tu sais, eux autres, personne ne leur parle. Oublie ça. Puis ils sont 30% dans la ville, tu sais. C'est terrible, là. Pour avoir vécu dans un milieu comme ça, je comprends tellement ce que tu décris, parce que oui, il y a des réserves pas loin, puis non, il va pas à Lac-Simon, il va pas les voir les réserves, on n'a aucune idée ce qui se passe.
Puis ils veulent pas le voir là non plus. Non. Ben, parce qu'il y a aussi ce volet-là, tu sais. Il y a
ça, ça parce que eux, ils étaient pas sûrs, ouais, c'est ça.
Non, ils veulent pas non plus.
Parce qu'à l'inverse, eux aussi, ils sont des stéréotypes sur les blancs, et tu sais, est-ce que s'il y a deux de leurs enfants avec. Ben, ouais.
Ben oui. Tu sais, c'est ça. Mon frère, là, quand je raconte que. Il y a eu des menaces de mort parce qu'il est arrivé. T'sais, c'est vrai, là. Ben, je le crois, mon frère. Je vois pas pourquoi il aurait menti là-dessus. T'sais, je le crois. Il est arrivé. La job était faite en cochon. Il fallait qu'il coupe des arbres pour faire la ligne d'hydro. Puis c'était. Il avait pas respecté les normes. Puis mon frère, sa job, c'était de dire hey, vous allez recommencer votre job parce que là, vous êtes écologiquement pas correct. Il y a rien qui est fait selon les normes. Puis. Les Indiens, ils ont dit, on est sur notre territoire, ferme ta gueule, tu peux pas ressortir les pieds devant, là. Puis il a fallu qu'ils changent de job parce qu'il y a eu des menaces, tu sais. Fait que, c'est aussi une forme de racisme, là, mais c'est comme un racisme acceptable, tu sais, parce que, bon, les pensionnats, parce que ci, parce que ça. Puis c'est vrai, mais c'est parce que le Blanc qui vit en région, qui subit ça aussi, lui, il s'en calisse des pensionnats, là, tu sais. Il est juste fâché, tu sais, il a juste l'impression... de vivre une injustice. Mon frère, c'est ça qui est arrivé. Il était pas raciste avant, hein. Mais tout ça est arrivé. Puis maintenant, on parle plus d'un Indien, là. Il est zaï, mais tu sais. Puis il a un discours très violent, même plus violent que ben mes oncles puis mes tantes, tu sais, qui sont plus âgés. Puis c'est qu'à la limite, tu peux dire que c'est de leur époque. Tu sais, mon frère, il a 24 ans. Puis quand tu dis des affaires sur les Indiens, c'est comme... Ah, ça brise le cœur, tu sais. Parce que le pont, il s'est pas fait. Puis c'est beau, c'est super important de faire des... T'sais, des colloques, puis d'écrire là-dessus, puis de faire des rapports, mais je trouve qu'on manque tellement d'outils sur le terrain. Ouais. Fait que c'est comme ça aussi que j'ai envie de dire avec.
Parce que je trouve ça incroyable, parce que tu es en ayant né, grandi en Colombie, il y a plein d'affaires comme ça avec le Amérindien, avec les Noirs. Mais tu sais, je m'attends à ça du tiers-monde, mais je m'attends, tu sais, on s'attend pas à ça du monde civilisé, tu sais, que ça existe encore aussi des enclaves.
Oui, mais c'est ça, c'est une illusion. Hein. Moi, j'ai l'impression que les humains, au fond, ont tout le temps les mêmes peurs, les mêmes préoccupations, peu importe où ils sont dans le monde et peu importe leur classe sociale. Il y a du racisme de partout, il y a de la bêtise de partout, il y a de la cruauté de partout, et il y a aussi du bon, de la gentillesse, de l'entraide de partout. Et...
C'est quelque chose qui est réparti équitablement dans le monde. Je pense que c'est vraiment tout. Ouais, je pense que c'est assez réparti.
Mais moi, je pense qu'on a tous des réflexes racistes. Même quand idéologiquement on le réfléchit autrement, qu'on le rationalise autrement, à un moment donné dans notre vie, il se passe quelque chose, on fait oh mon dieu, ce que je viens de faire, dans le fond, c'était raciste. Ouais. Je pense pas être raciste, je réfléchis pas comme ça. Mais parce que je sais pas, parce que tu as écouté des films où dans les films, mettons, c'est toujours les Noirs qui ont les second rôle. Je veux dire, c'est juste acquis. Un certain discours social et culturel que tu transposes dans ta vie quotidienne, des fois sans même t'en rendre compte.
Puis ça, ben moi j'ai espoir de penser qu'à force de faire de la vulgarisation, pointer ces affaires-là, on va arriver à les déconstruire. Puis en ce moment, si le mouvement féministe fait un truc, je trouve que c'est ça. Puis je trouve que c'est ce qui est pertinent dans notre société en 2016. Il y a bien du monde qui. Pas du monde autour de moi, mais c'est des choses qu'on peut entendre, là, c'est gros de même, mais on l'entend pareil. T'sais, on n'a plus besoin du féminisme aujourd'hui. Mmh. Mais tu sais, ou à quoi ça sert? Mais ça, moi, selon moi, ça sert à ça, ça sert au sexisme ordinaire. Déconstruire ça, puis le racisme ordinaire, c'est aussi de cette façon-là. Ouais. C'est une forme d'éducation populaire, dans mon sens.
Mais tu as complètement raison, et le féminisme est un bon exemple de pourquoi il faut garder l'espoir, là, parce que les femmes, il y a 50 ans, on n'aurait pas été ici.
Elle a écrit ce nom d'Éric.
Éric.
Mais on voit que une société peut évoluer quand même, que des mœurs, mais aussi des manières de voir l'autre peuvent évoluer, parce que les femmes avant, c'était aussi comme une bibite bizarre. C'était l'autre aussi, et ça a évolué aussi.
Puis en même temps, j'ai l'impression, pas autant que ça, je sais pas en dire.
Ah non,
mais j'ai l'impression que c'est cette. ce discours-là, tu sais, qu'on se fait servir, mettons, autant pour le droit de la femme, des homosexuels ou des immigrants, qui servent beaucoup aussi à justifier l'arrêt, tu sais, du militantisme. Tu sais, comme il y a 50 ans, mettons, on ne serait pas ici où il y a 50 ans, on n'aurait pas ces droits-là, donc les droits ont été acquis. Tu sais, c'est comme fini, tu sais, tu vois ce que je veux dire?
Mais je ne le dis pas dans ce sens-là.
Non, je sais que tu ne le disais pas dans ce sens-là.
Mais
donc,
je
le dis dans ce sens-là.
Non, je dis au contraire, dans le sens qu'il y a l'espoir de se dire que on continue, ben on va aller pour...
Non, j'avais compris que c'était c'est pas toi qui disais ça, mais tu sais, j'en pense ça sur le féminisme, mais il y a beaucoup de gens qui sont contre le féminisme, qui vont justement dire la même chose. C'est bizarre, tu sais, de penser à quel point on peut avoir le même discours.
Mais aller
vers deux buts complètement différents, tu sais.
C'est vrai.
Puis c'est pour ça que le féminisme est toujours en train de justifier, parce que... les gens vont dire oui, mais il y a 50 ans, vous n'auriez pas pu faire ci, les droits sont acquis maintenant, blablabla, alors que non, tu sais.
Alors que là, on est ailleurs, on s'attaque à d'autres choses.
Mais oui, c'est ça. Tu sais, puis le féministe aujourd'hui, c'est genre l'hypersexualisation, c'est pas le droit de vote, c'est sûr.
Non, c'est.
Souvent, ils sont plus formés en traduction que les hommes. Les hommes arrivent d'un autre milieu. Ils ont à peu près pas étudié en traduction. Puis ils arrivent en traduction, puis comme moi, je suis capable de traduire, puis ils traduisent. Puis les femmes, eux autres, ils ont fait une maîtrise sur le sujet. Puis ils arrivent pour se vendre, puis ils sont comme pas capables, on dirait, de demander le tarif que l'homme demande.
Mais ça, les études.
C'est pathétique, mais c'est comme ça.
Ouais, mais les études, ils sont un peu partout où qu'il faut qu'on négocie son salaire. Les femmes, elles sont systématiquement d'argent parce que. Elles sont plus
peurs,
elles sont plus gênées, ça c'est fou.
Fait qu'il
reste des points.
Mais même en littérature, hein, où on se dit soi-disant ouvert d'esprit et tout, il y a vraiment d'inégalités.
C'est-tu de la chiclette ce que tu fais?
Non, mais c'est de la littérature de l'intime. Puis qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui n'est pas toi? Je veux dire, avez-vous lu Simon Roy, Ma vie rouge Kubrick?
Non.
Ben, c'est un livre que je suis convaincue que ce qu'il raconte là-dedans, ça lui est arrivé pour vrai, puis il n'y a personne qui l'écœure avec ça.
Mais aussi, si c'est le fait, c'est mettons qu'une fille, on a parlé aussi un peu de ça pendant le séminaire. Mettons, tu prends, je sais pas, mettons un homosexuel qui écrit un roman ou qui a un personnage homosexuel, mais c'est un roman homosexuel qui s'adresse à un public cible qui va être classé dans la section genre littérature homosexuelle d'une librairie. Mais tu prends un hétéro comme Jonathan Little qui met son personnage dans Les Bienveillantes comme étant homosexuel, ben c'est un roman universel. C'est la même chose pour la femme. Si une femme parle d'une femme dans un texte, ben c'est un roman féministe pour la femme de l'intime. Ben tu sais, il y a des exceptions. Mais si un homme, mettons, prend un personnage féminin, ben c'est comme, encore une fois, ou si un homme parle d'un homme hétérosexuel, ben c'est pas un roman pour hétérosexuel homme, mais c'est un roman, tu sais. Et c'est pas tout le monde qui fait cette distinction-là aussi, caricaturée. Mais il y a beaucoup ça, je trouve.
Puis tu sais, dans le libraire que j'ai vu dernièrement, sur 10 livres qui étaient annoncés, je pense qu'il y en avait 9 qui étaient écrits par des gars. Tu sais, il y a souvent beaucoup plus de livres qui sont publiés par des femmes.
Ah ouais?
Ouais, pis c'est vrai, puis il y a un gros papier qui est sorti aussi dans la presse par rapport à ça, tu sais, comme quoi les hommes, eux, ils écrivaient des épopées, puis tu sais, c'est ça, il y avait une espèce de standing que la femme, ça, c'est la littérature de l'intime.
Ça me fait penser, tu disais, des fois, je suis pas raciste, puis j'ai jugement. Cette année, je me fais un point d'honneur d'essayer de lire autant de livres de femmes que d'hommes.
Ouais. C'est bon.
Puis sérieux, là, ma liste de lecture, j'étais en retard, hein. J'avais plus d'hommes dans lui que de femmes, vraiment, big time, là, tu sais, sans faire attention, là, le biais, il est là. Puis pourtant, tu fais, je choisis pas en fonction du sexe, je choisis en fonction, mais l'offre est biaisée, ce qui est mis en avant est biaisé, ce qui est disponible est biaisé. Fait que faut que tu fasses un effort pour aller faire une recherche équitable d'auteurs.
Puis prends les prix littéraires. Les prix littéraires, c'est terrible, c'est surtout des hommes qui remportent les prix littéraires. Surtout en France.
Même le prix féminin.
Il prend un concours comme, mettons, le prix littéraire Radio-Canada, tu sais, où c'est complètement anonyme, puis où le jury ne sait pas qui a écrit le texte avant de vraiment ouvrir le truc. Mais là, soudainement, c'est bizarre, il y a plein de femmes, tu sais, dans les lauréats. Tu sais, il y en a plus que dans les prix où c'est pas anonyme. Fait que ça pose des questions.
C'est intéressant. Ouais. Ouais.
Je suis sûr que tu fais la même chose avec les gens de race, puis t'as le même résultat.
Ça m'étonnerait pas. Alors que je suis sûr que les gens qui sont sur le jury, quand ils pensent, tu sais, ils peuvent voter très à gauche même, ils peuvent même complètement adhérer à un système de valeurs progressistes et tout, mais c'est juste qu'ils ont eux-mêmes acquis un certain regard sur la littérature.
Ouais.
Hey, c'est intéressant.
Non, c'est fun. Ouais. C'est fun que ça vit de. Oui! Oh!
Hey, non, mais il y a le sens du fun.
Il a hérité
ça. Vient, ça vient d'accord. L'autre est comme juste une bête.
Ouais, sur une table, dans un... c'est génial. J'adore ma famille, j'aime la vie. Ben écoutez, moi ça a fait pas mal le tour là, tu sais, sans avoir suivi mon affaire, j'ai pas mal parlé de tout. Puis ben là, je finirai peut-être avec vers où je m'en vais.
Ouais.
Allons-y avec ça. Ben j'ai goûté au roman, c'est sûr que j'adore ça. J'ai envie de me camper encore plus dans la fiction pour la prochaine fois. J'ai peut-être envie de balayer. C'est peut-être parce que là, c'est trop frais, toute mon expérience, mais j'ai peut-être envie de balayer un peu le vécu. C'est sûr que moi, je vais travailler avec des choses que j'ai observées, tu sais, puis que j'ai vécues. C'est sûr. De toute façon, je pense que tout le monde fait ça. Mais l'ambiguïté sera sans doute pas là. Puis autant j'ai parlé des hommes, autant j'ai tellement envie de parler des femmes. Puis mon prochain recueil, c'est les femmes. Je magnifie une femme. J'ai envie de faire de la poésie de liberté et un petit peu sexy. T'sais, j'ai comme tellement envie d'aller là-dedans. Puis c'est ça, avec des codes très hollywoodiens. Puis en même temps, il va y avoir tout un. On est quand même sur la côte nord, il y a des troqueurs, tout ça, mais ça va être très féminin. Là. Il y a beaucoup ça en moi. Le rapport au corps aussi, beaucoup. Mais très... très frondeur, là. Puis c'est drôle, bon, je suis en train de me justifier, je suis en train de dire, ah, oh, ouais, mais ça, tu sais, si on parle de femme, ça sera pas cucu.
Ouais. Maman,
voilà. Ça sera pas de la chiclette,
c'est ça. C'est ça, ça sera pas... Victor, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que
tu as
mis du Pepsi dans mon jus?
Non, c'est du Sprite. C'est du 7-Up, mon amour.
Les niaiseuses, maman.
Pourquoi?
Tu as mis du 7-Up.
Ben, je voulais te faire plaisir, Victor, c'est de la liqueur.
Cette enfant s'alimente trop bien.
Ça vient. Ben oui, il est là.
Après, en gros, je t'aime. Ça, tu sais, on n'a pas des enfants qui n'ont
pas une niaiseuse. Il m'aime, puis je suis niaiseuse. J'aurais pas accepté de me faire traiter de niaiseuse à la maison, par exemple. Non, c'est parce qu'il y a du monde.
Il va te reconnaître, mais il va avoir peur de toi.
Puis aussi par rapport au rythme d'écriture dans le prochain recueil, parce que là il est entamé, autant là c'est carré, c'est très court, puis là le mouvement est très important, le mouvement de mes bras. Dans le prochain livre, j'ai envie d'avoir plus d'élan, que ce soit plus à la limite quasiment comme de longs poèmes, quasiment comme une épopée poétique. Là, je le vois plus de cette façon-là, que ce soit moins carré, plus peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, mais lyrique, là, tu sais, mais en tout cas, je trouve ça une connotation négative à mon sens, mais c'est pas ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est parfait. Mm-hmm. Puis c'est sûr que là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, je fais des affaires qui sont très, la nordicité, tout ça, c'est bien dans la mode, tu sais, puis toi, comme après ça, où est-ce que je vais me positionner dans ma démarche, tu sais, je me pose comme ces questions-là, j'ai pas de réponse encore, mais je pense que j'ai la prête. Parce que je pense que si ça demeure toujours sincère, ça va être pertinent. Puis j'ai abordé des thèmes à la mode sans le vouloir, c'est arrivé comme ça, mais c'est parce que j'étais à l'écoute du monde autour de moi, puis je vais y aller dans ce sens-là, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va naître de ça, puis ça va être authentique, puis je pense qu'on se posera pas la question. Ouais. Voilà. Merci d'avoir été là. Fait au plaisir de vous voir. Si vous passez au Salon du Livre en fin de semaine, toi, tu vas être là, j'imagine?
Ben, je décide.
Tu décides? c'est toi ou c'est ton chum, ça, non?
Ah non, il
n'y
a rien à voir là-dedans.
Non? J'étais sûre. Ah, non, non, ok.
Non.
Non, ok. Non. C'est n'importe quoi.
T'as eu une bonne réception. C'est quand même, hein, il y a eu beaucoup d'articles.
Ouais. Ouais. J'ai été vraiment gâtée, puis des critiques à la limite plus pop, là, t'sais, plus populaires. Mm. Je pense entre autres à Christine Brouillet, à Salut Bonjour.
Hein, ah ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est cool. Je suis vraiment contente. Ouais. Puis, tu sais, le choix d'aller avec Québécois, c'est très conscient aussi parce que j'avais envie que le livre se rende. Chez mes oncles, ouais. Chez du monde en région que, tu sais, écoute, il n'y en a pas de librairie chez nous, là, t'as Bécomo, la plus proche, puis c'est à 1h15 de route. Fait que, à un moment donné, si je veux toucher ces gens-là, ça me prend une machine en arrière. Fait que le choix était très conscient.
Ouais, d'accord.
Puis ils sont très contents chez VLB parce qu'ils étaient un peu boudés. Parce que, tu sais, ce qui marche en ce moment, c'est le Cartanier, c'est la Peuplade, c'est des excellentes maisons d'édition, mais VLB, c'est un peu plus mainstream, puis ils sont peut-être un peu plus boudés par les critiques, puis là, ils ont l'impression de... Ils sont vraiment contents parce qu'ils
se démarquent là-dedans. De la littérature, mais est-ce que tu as eu un mot de regard sur la couverture?
Oui, mais tu sais, je donnais mes idées, puis Annie, elle savait à peu près pas mal ce qu'elle voulait. Fait qu'elle m'a comme envoyé ça, tu sais, qu'est-ce que t'en penses.
Okay.
Puis, tu sais, elle m'avait envoyé aussi 2 ou 3 autres exemples de. C'était toujours des pylônes, tu sais. C'était très électrique, très hydro. Puis, j'ai donné mes commentaires, mais je l'ai pas mal laissé aller avec ça. Puis, je l'adore, je la trouve très belle.
Ben oui, je la trouve super belle.
Ouais. Puis, les couleurs sont raccord, tu sais, dans cette collection-là. Il y en a qui me parlaient moins, tu sais, les losanges, t'en avais un rose, un, tu sais, c'était peut-être moins raccord, mais là, je trouve que c'est tout ça dans le même temps.
Est-ce que tu vends des livres, ça?
Oui.
Est-ce que tu as les recueils? Moi, j'avais celui-là, mais est-ce que tu
as les seuls qui me restent.
Est-ce que tu vas les avoir là-bas? Ou...
Ben, d'habitude, 3 pistoles, ils les traînent à leur stand, ouais, ils les traînent encore. Il est encore distribué. Puis si jamais tu l'as pas en librairie, tu peux le commander, tu leur demandes, ils vont le faire venir. Il est encore en circulation.
Merci,
voilà, ben, merci à vous. C'était vraiment le fun, j'adore ça.
J'ai adoré ça.
Merci.